Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Tupac Shakur, 1971-1996. Aujourd'hui, à l'heure où l'Amérique s'est choisi un président noir, mais où sa police tue encore les enfants à la peau sombre sans discernement, en ce jour qui plus est du 50e anniversaire de l'assassinat de Malcolm X, une vie, une œuvre vous entraîne dans le ghetto de Harlem à Compton, sur la piste de la dernière panthère black, le rappeur Tupac Shakur. Un homme au nom de serpent Inca et de leader révolutionnaire qui aurait pu être danseur de ballet, mais qui devint l'incarnation de l'American Nightmare. Un nègre beau, brutal et fier, qui crachait son venin sur instru, une star, un insoumis, violemment disparu. Tupac Shakur, La Dernière Panthère, un documentaire de Martin Kenéen et Doria Zénin.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas. The shots were fired from a Cadillac that drove up alongside Knight's BMW, but police still have no leads on a suspect or a motive.
Even if I die, I'm gonna be a fucking problem.
Mauvais endroit, mauvais moment, c'est un peu toute l'histoire de la vie de Tupac qui, quand même, rappelons-le, qui a fini dans un bain de sang comme l'égérie de la West Coast et du gangster rap, donc de la Californie, alors que son premier nom d'artiste est quand même MC New York,
Olivier Cachin.
Il est né d'une mère Black Panther à Fanny Shakur à New York, et que le début de sa carrière montrait quelqu'un de très doux, de très intelligent, de très fin, et pas du tout l'espèce de monstre de haine qu'il a fini par incarner sur la toute fin de sa vie. Il est à Las Vegas avec son patron, Suge Knight, celui qui l'a sorti de prison, qui a payé la caution $1 million et qui est devenu en quelque sorte, entre gros guillemets, son maître, qu'il a enrôlé sur son label Death Row Records, hein, les disques du couloir de la mort, un nom qui n'est pas innocent. Et il va assister à un match de boxe de Mike Tyson en compagnie de Suge Knight. Il y a en plus une altercation à l'issue du match dans le hall du MGM Grand, l'hôtel dans lequel se déroulait le combat. Et ce qui est terrible, c'est que juste avant de monter dans la voiture conduite par Suge Knight, qui quelques secondes après va être arrosé d'un déluge de balles au coin de la rue, on a une dernière photo de Tupac qui serait une photo totalement anodine, qui est un peu floue, d'un paparazzi ou d'un fan qui est devant la voiture au moment où Tupac va refermer la portière, et le regard qu'a Tupac, qui évidemment devient totalement prophétique vu ce qui s'est passé quelques secondes après, celui d'un être complètement désarmé. On a l'impression, on ne sait pas s'il a peur, c'est un regard très troublant. Il a des grands yeux amandes et il fixe la caméra, et c'est vraiment une photo qui marque, parce que ça aurait dû être une photo anodine, mais il se trouve que c'est la dernière photo quelques secondes avant son coma et son décès une semaine après. These niggas are still fucking talking. You niggas still
breathing. Fucking roaches. Alright, it's the rave on. Je pense qu'il y a une question qu'on peut soulever direct, hein, c'est...
Est-il vraiment mort ?
Est-ce que quelqu'un a déjà appuyé sur la détente ? Mais bon, c'est...
Mais là, on voit, après les investigations...
Les enclumeurs.
On a pu voir pas mal de trucs avec les flics impliqués et tout, sur sa mort,
ouais,
des espèces de combines...
C'est criminel, ça, je savais pas, c'est
faire des espèces abusé. De coalitions entre... Je sais pas, hein, après, il y a d'autres, des choses beaucoup plus, peut-être, occultes, ou on sait pas, plus sombres.
Mais non,
autour de sa mort.
Après, mais
à l'époque, on ne savait pas, mais aujourd'hui...
MTV. Dès que sur MTV, ils ont annoncé Tupac s'est fait tirer dessus à Las Vegas pendant à la sortie du match de Tyson. Ouais. Mais comme un dingue, pour moi, le monde s'arrêtait. Je voulais pas aller à l'école le lendemain, mon frère. C'était mort.
C'est normal, mais qui a fait ?
C'était les gangs, parce qu'il y avait le truc... Ça vient un an après l'embrouille... Enfin, la vraie déclaration de guerre avec Biggie. Donc on se dit, ouais, c'est forcément des Crips qui lui ont tiré dessus, vu que lui, c'était un Bloods, et que Suge Knight était un Bloods. Donc on était un truc de gang. Il y a des gars, même à l'école, ils s'embrouillaient. Ils étaient là, ouais, moi je suis un Bloods, moi je suis un Crips, ouais, Tupac, ouais, Biggie. Je
fais, ah,
laisse tomber. Donc non, enfin, moi de mon côté, c'est qu'on pensait que c'était des gangs qui s'étaient fait tirer dessus sur les histoires de gangs.
Il y en a qui disent aussi que c'est son manager qui avait fait une combine là. Suge Knight qui avait, pour faire un que truc, il avait un peu géré en disant, bon, lui il a fait son temps, on va le foutre dans le ravin.
Mais au final, qui l'a tué ? Est-ce qu'on répond pas à la question ?
Qui l'a tué ?
Parle, mais on sait pas qui l'a tué.
Comme que tu sais, il est vivant.
Mais moi, je sais pas. Mais comment, justement ?
Comment ? Je pense que les histoires les plus plausibles, c'est où son manager, ou l'histoire des keufs.
Oui,
c'est chelou.
Moi, je suis pas très complotiste, mais force est de constater, 18 ans après le shooting, la théorie de « il est encore vivant et boit des papayes au rhum dans une île avec Elvis et Bruce Lee » semble un petit peu ternie, mais je crois que ce qui est sûr, c'est que d'une façon ou d'une autre, c'est le résultat de cet amoncellement de haine, de cette vendetta à l'américaine qu'il y avait entre les deux labels qui étaient Bad Boy et Death Row, entre les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest, et puis entre deux hommes aussi, Notorious B.I.G. et Tupac. Il y a plein de théories. C'est vrai que la théorie de Suge Knight se débarrassant de son artiste parce qu'il voulait le quitter est séduisante dans le sens où on sait très bien, on voit ce qui arrive à Death Row, on se doute que si Tupac avait survécu, il ne serait pas resté pendant 15 ans dans ce label, qui était un label où régnait la terreur, dirigé par un ancien gangster, footballeur américain qui avait une carrure et une aura absolument sinistre. Ceci étant, j'aimerais quand même qu'on m'explique comment quelqu'un qui veut se débarrasser de son artiste le fait par des gens qui tirent à l'arme automatique dans une voiture dont il est lui-même le conducteur. Bien évidemment, tout ça reste des théories, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'officiellement, il n'y a pas un coupable qui a été condamné ou désigné. C'est l'affaire du petit Grégory en version rap, quand même.
La réalité, c'est que Tupac Shakur a cru dans ses fantasmes, qu'il croyait représenter la réalité, et quand la réalité s'est présentée à lui, c'était sous la forme de balles. Et ce n'était pas la première fois qu'il se faisait descendre, puisque un an et demi ou deux ans plus tôt, à New York, il avait déjà pris des balles.
Pierre et Ville.
Donc il avait déjà tutoyé la ligne jaune une fois, il s'en était sorti. Le fait qu'il s'en soit sorti lui avait donné une aura presque christique dans le milieu du rap, une histoire qui est la représentation de toutes les contradictions de la communauté noire américaine des 30 ou 40 dernières années, s'est retrouvée concentrée dans cet artiste qui est mort à 25 ans, bien trop tôt, d'avoir cru à ses propres mythes. Et effectivement, son dernier album, celui qu'il a enregistré à l'été, juste avant d'aller à Las Vegas, le représentait en Christ machiavélique, puisqu'il s'était pris un pseudonyme qui était Machiavelli, Machiavel. Donc on le représentait post-mortem, un mois avant qu'il tombe sous des balles absolument inattendues. Donc il y a une espèce de récit, effectivement, de rap en rap, d'album en album, où on voit se dessiner ce drame, et c'est ça qui le rend tragique, c'est la force de la tragédie, c'est une histoire dont on sait qu'elle se termine mal, et on a vécu avec lui cette tragédie.
Je te mets un coup de revolver dans la tête, hey, casquette magie noire, la drogue, non, y'a plus rien à taper. Paris, c'est M.O.R.T. rap, black metal et mortier, bombeur sous l'équateur, Tupac est dead. Ici à mes pieds, pyramide où tombe baby, Jésus fut mon héritier, acide et le gourou, jatte la pomme d'un arbre fruitier, couronne un cap Pink, Taspé, meurtre, Las Vegas, c'est passé, fusillade dans la Merco, blanche que Biggie a vu passer.
Mais en fait, Tupac, nous, quand on l'exerçait, on était des enfants, donc on n'a pas vécu directement Tupac, mais on a pu que le fantasmer et le vivre de loin.
Anta et Quincy Horty.
Oui, c'est un fantôme qui nous hante, en fait, et on ne le rêve peut-être pas la nuit dans notre sommeil, mais dans nos chansons, des fois, on écrit des textes et on se rend compte qu'il y a beaucoup de parallèles, alors que c'est assez dingue, en fait. C'est comme une figure qui nous poursuit. Notre héros. Le seul héros du rap, finalement.
Ouais. Qui est-ce qui a vendu autant de CD encore maintenant? Ça reste la légende, je pense, encore pendant longtemps.
Et qui restera dans le rap, dans l'histoire du rap? Il est mort jeune, 25 ans, et il est déjà mort en légende. Et a apporté un truc qui est unique et qu'on ne retrouvera pas. Maintenant, le rap se mord la queue.
C'était l'époque, moi j'avais 15-16 ans, même 14 ans, on roulait des fois en BMX. C'était le début des soirées hip-hop.
Nadir Youlin.
C'était les matchs de foot et les matchs de basket. C'était Michael Jordan sur le playground. Tout le monde voulait ressembler aux Lakers et aux Bulls, à la Dream Team. Et on écoutait Ola Zombie et on écoutait California Love. C'était juste après Snoop Doggy Dogg et What's My Name. Et puis, il y a aussi la cour de récréation au collège avec Dear Mama et Brenda's Got a Baby, les premiers morceaux sur les jeunes filles qui tombent enceintes alors que c'est des ados. Donc, tous ces morceaux-là, c'est depuis la fin de la primaire jusqu'au début du lycée. C'est les joies et les peines. À un moment donné, on a ces morceaux-là, les soirées entre copains. Après, il y a eu tous les problèmes médiatiques, la prison. Là, on le voyait dans le tribunal marcher. Il ne se laissait pas faire. Après, ah, il va être assassiné. Et puis, le jour de son assassinat, c'était l'époque des beepers. Et on recevait le jour de sa mort ou le fait qu'il était à l'hôpital par message sur les beepers à l'époque. Je me rappelle. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the beef. Is it true that you were born in prison?
Est-il vrai que vous êtes né en prison?
Not born in prison. My mother was pregnant.
Pas né en prison. Ma mère était enceinte de moi quand elle s'est retrouvée en prison. Et au moment où elle est sortie, elle a accouché. J'ai donc été cultivé en prison. Mon embryon était en prison.
L'histoire de Tupac commence quasiment dans une prison de New York, là où sa mère Afeni, qui était une Black Panther, était emprisonnée avec 20 autres camarades. C'était les 21 de New York. Et ces 21 ont d'ailleurs une existence littéraire dans le monde de la littérature des années 70, puisque c'est pour les libérer que Leonard Bernstein, le grand chef d'orchestre, a organisé chez lui une réception à laquelle Tom Wolfe, le grand écrivain de la génération hippie, est allé, et à l'issue duquel il a écrit un article absolument scandaleux sur, en gros, la gauche caviar américaine qui s'appelait Radical Chic. Et donc, l'une des 21 de Radical Chic, c'est la mère de Tupac Shakur qui porte sur elle l'histoire contradictoire et tragique des Black Panthers. Je dis contradictoire et tragique parce qu'elle était effectivement cette mère courage qui était fidèle à l'esprit social révolutionnaire des Black Panthers, mais elle a été aussi la mère qui a chuté, la mère qui est tombée dans la drogue, la mère qui a choisi les mauvais hommes, la mère qui a donné aussi, en fréquentant un voyou à Tupac, de mauvaises images masculines, l'image des voyous, des caïds du ghetto. C'est la mère qui l'a abandonné quasiment alors qu'elle était drogué quand il avait 15, 16, 17, 18 ans, le moment où un jeune homme se forme, dessine sa virilité, et Tupac a été tout seul à ce moment-là pour le faire. Mais Afeni Shakur, c'est aussi celle qui s'est redressée, c'est celle qui, grâce à son fils, a retrouvé une dignité, c'est celle qu'il a chantée dans sa chanson Dear Mama. C'est à la fois une héroïne et une héroïne déchue, une sainte et une pécheuse, et en elle-même, elle représente aussi une part de ce mythe qui est le mythe de Tupac Shakur.
Afeni Shakur, c'est quelqu'un qui est essentiel dans la vie de Tupac, c'est sa maman, c'est une forte personnalité et c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'activistes politiques, a été effectivement broyé par son époque. C'est quelqu'un qui, on voit ce qui est arrivé au Black Panther. Alors, sans rentrer dans la théorie conspirationniste, il y a quand même une opération qui s'appelle le COINTELPRO, fondée par le FBI, dont le but était d'écraser les Black Panthers. Donc c'est vrai que la plupart, il y en a qui ont fini en prison, d'autres dans le crack. Afeni a eu effectivement ses démons. Je pense que tous les Noirs américains militants des années 60-70 ont eu effectivement affronté ces démons-là. Je pense que Tupac a été a baigné dans cette atmosphère-là et ça a rejailli sur lui.
Tupac a un rapport particulier avec sa mère, qui l'a initié à la politique, hein, qui lui demandait de lire le New York Times tous les jours et qui lui faisait une interro sur ça, et qui, lorsqu'on lui disait « Mais pourquoi es-tu si dur avec lui ? Ce n'est qu'un garçon, qu'un jeune homme. » Elle lui disait « J'éduque un jeune homme noir dans une société où l'on tue les jeunes hommes noirs. »
Disons que, effectivement, hein, l'apogée du Black Panther Party, c'est la fin des années 60. Et ensuite, toute cette mouvance militante.
Valérie Bonnet.
Paravolo pour diverses raisons, hein, des problèmes d'addiction à la drogue, des problèmes de lutte interne, hein, il ne faut pas oublier que Malcolm X a été assassiné, des problèmes de manque de combattants, un changement d'époque également. Et c'est effectivement une période où on voit apparaître des voix un petit peu désespérées et un petit peu sardoniques, hein, sur la situation des Afro-Américains, où on a perdu de vue ce combat collectif. Donc Tupac a dû grandir effectivement dans une atmosphère un petit peu amère hein, au regard des espoirs qui ont pu être soulevés par tout ce mouvement afro-américain, et ce sont des espoirs qui sont déçus.
Et donc, dans l'histoire des Black Panthers, dès les années 70, il y a ce qu'on retrouve dans l'histoire de Tupac Shakur, qui est ce mélange entre une posture politique et une posture criminelle. Derrière la figure de l'homme noir viril, c'est pas un hasard si les Black Panthers avaient des vestes noires, c'est pas un hasard s'ils soignaient leur apparence, c'est pas un hasard s'ils se déguisaient en militaire et qu'ils exhibaient leur virilité, leurs fusils en pleine rue, etc. C'est aussi pour attirer un public qui était le public que Tupac a voulu attirer 25 ans plus tard, le public des jeunes hommes noirs, le public des nègres de la rue, comme le dit Tupac, dans le fantasme qu'il avait de devenir ce révolutionnaire artiste qu'il espérait être pour être fidèle à la tradition familiale.
Ma mère était une Black Panther. Elle était très impliquée dans ce mouvement, celui des Noirs combattants. Mon père, lui, c'était une crapule, un mec de la rue. Je crois qu'ils vendaient de la drogue, des trucs comme ça. Pourquoi ils se sont mis ensemble, ça me dépasse. Donc mes parents ont eu une enfance difficile. Je n'ai jamais connu mon père. Je l'ai rencontré, mais il est mort. C'était horrible.
Il n'y a pas de père dans le ghetto, il y a des géniteurs. Et c'est vrai que Tupac, c'est exactement ce qui lui arrive. Alors après, si on analyse la vie privée, la vie personnelle de Tupac, on voit qu'effectivement, la façon qu'il a de se jeter, entre guillemets, dans les bras de Suge Knight, son patron, c'est peut-être une façon de trouver, sinon un père, du moins une figure paternelle ou protectrice. Et malheureusement, comme souvent, il fait le mauvais choix parce que Suge Knight est quelqu'un qui est peut-être encore plus toxique qu'a pu l'être sa mère Afeni quand il était plus jeune.
So we moved to Baltimore. Alors on a bougé à Baltimore, qui était pour moi une ville totalement inconnue. Baltimore avait à cette époque-là le plus haut taux de noirs tuant d'autres noirs dans tout le pays. J'ai passé 3 ans à Baltimore. J'ai fait mon lycée dans une école d'art. Là-bas, je me suis fait plein d'amis. J'adorais les cours. Le théâtre, le ballet, écouter différents styles de musique.
Bah, en fait, qu'il soit passé par une école d'art, qu'il ait fait de la danse, du théâtre, c'est quelque chose qui, déjà d'office, le place dans une catégorie un petit peu parallèle à celle de la majorité des artistes rap, qui sont presque, dans leur presque totalité, à part des gens comme Chuck D, Public Enemy, qui vient plutôt de la middle class, des gens qui sont des autodidactes, nés dans le ghetto, et qui n'ont eu accès à la culture que assez tardivement et autour de leur art. Donc lui, il a déjà quelque chose en lui qui fait qu'il a un peu plus de recul, peut-être, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que la plupart des rappeurs sont des gens qui ne connaissent que leur quartier, leur bloc, et c'est d'ailleurs d'autant plus spectaculaire de voir l'intensité de leurs paroles parfois, quand on voit le peu d'éducation officielle qu'ils ont eu. Tupac, il a une petite avance, et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a eu tellement de facilité, au-delà du hip-hop, dans sa courte vie, à faire des choses comme jouer au cinéma, et on peut très bien imaginer que si sa vie avait été plus longue, on aurait pu le voir au théâtre, on aurait pu l'imaginer écrire des livres, écrire des essais. C'est quelqu'un qui avait intellectuellement un potentiel, et puis une éducation un peu supérieure à celle de la plupart des rappeurs venus du ghetto et des coins sombres des quartiers américains.
C'est l'élément le plus intéressant de sa biographie. Pourquoi ? Parce que, en réalité, pendant ces années-là, qu'est-ce qu'a été Tupac Shakur ? Il a été un hippie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a été à la fois dans l'expression de lui-même, qu'on a retrouvé à l'époque hippie, mais il a été aussi jusqu'à lire les livres que les hippies lisaient pour construire leur spiritualité, l'Inde, Teilhard de Chardin. C'est des noms absolument stupéfiants qu'on voit dans le parcours de Tupac Shakur. Il a eu quelques grandes figures positives dans sa vie, donc à Baltimore, effectivement. Un peu avant, à Harlem, il y a eu aussi un pasteur qui faisait du travail social qui lui a permis de jouer au théâtre. Et puis, il y a eu une femme qui a été sa première manageuse à Oakland, qui lui a ouvert sa bibliothèque. C'était la bibliothèque de sa professeure, qui était une hippie. Et donc, il a lu le livre des morts tibétains, il a lu ou parcouru, il a lu l'autobiographie de Malcolm X qui était sur la table de nuit de tous les hippies un peu politisés des années 60-70, il a lu une littérature un peu New Age qui a construit chez lui une espèce de personnalité christique qui fait qu'il a projeté bien plus que du rap quand il est devenu artiste.
Ce qui est intéressant, c'est que Tupac, lui, dans sa vie réelle, a joué Shakespeare au théâtre, s'est fait appeler Shakourspire et a été profondément marqué, on a plein d'interviews de ça, par Shakespeare. C'est-à-dire que son film, qui doit être adapté maintenant, le biopic sur sa vie, mais c'est un film qu'il a écrit en prison, il l'a écrit après avoir lu 23 heures sur 24, c'est quasiment Shakespeare. Et que c'était sa référence principale. C'est pour ça qu'on le voit en 88 sortir une mixtape où il s'appelle Shakourspire, habillé dans les toges anglaises, etc.
Dans ma musique, si tu écoutes mes anciens albums, tu verras que j'essaie de parler des choses qui me frappent et qui frappent ma communauté. Et j'essaie d'en parler du point de vue du témoin. Parfois, c'est du point de vue du témoin, parfois du participant. Et parfois, ce sont juste des allégories et des fables qui ont une morale ou un thème sous-jacent. Mon inspiration quand j'écris de la musique, c'est Shakespeare, des histoires fortes.
Et la vie de Tupac, c'est fondamentalement Shakespeare. C'est pour ça que je me suis attelé à travailler une pièce qui s'inscrit sur la vie de Tupac et Tupac qui répète une pièce de Shakespeare, qui est Coriolan. Et on découvre la personnalité de Tupac à travers le travail de Shakespeare. Coriolan, c'était un guerrier virulent, mais pas que ça, c'était quelqu'un qui était aussi rebelle et qui était autonome. Tupac, il a toujours été virulent et dans la lignée de ses parents, un peu opposé au système. De fait, il n'a pas eu le choix, hein, parce qu'il est né dans une famille Black Panther. Et puis, donc il a grandi de cette manière-là. Coriolan a été exilé, il est passé d'une côte à l'autre, si je peux dire comme ça, des Roms aux Volsques, opposé parfois à la plèbe malgré lui. Et Tupac est passé, malgré lui, de la côte est à Baltimore jusqu'à la côte ouest. Mais malgré lui, parce que sa mère était blacklistée, et du coup, il s'est retrouvé quasiment SDF à Marine City, et puis Los Angeles, enfin toute la côte ouest. Donc ça, c'est le même rapport. Ensuite, Coriolan est revenu à Rome vainqueur. Tupac est revenu sur toutes les côtes des États-Unis vainqueur, parce que c'est devenu le rappeur numéro 1. Coriolan a été assassiné brutalement, par une bande de conjurés, plus ou moins ses ex-amis. Enfin, on ne sait pas vraiment, c'est un meurtre mystérieux dans l'œuvre de Shakespeare. On connaît la mort tragique de Tupac à 25 ans. Coriolan ne voulait pas rentrer en politique, puis il a décidé de rentrer en politique. Tupac, juste avant de mourir, a décidé de monter un parti politique. Donc voilà, ça c'est dans les grands traits.
Il arrive pas à Los Angeles pour commencer, il arrive en 88 dans une petite localité qui s'appelle Marine City, qui est située dans la baie de San Francisco.
Johann Lemoyne.
Parce que à l'époque la ségrégation résidentielle était extrêmement, extrêmement forte et c'était le seul endroit où il pouvait vivre dans la région. Alors il est initié au rap, où il devient vraiment un rappeur à plein temps si je puis dire, lors de son passage dans la baie de San Francisco. Il va commencer à côtoyer un groupe de rappeurs qui s'appelle les Digital Underground. Et ils vont faire énormément de concerts, notamment à Oakland, qui est une ville extrêmement violente, extrêmement pauvre, une ville majoritairement afro-américaine, dans laquelle le trafic de crack, encore une fois, est extrêmement développé. Donc c'est vraiment à cette époque-là qu'il va entamer sa période de rappeur.
Dans un morceau, il apparaît vraiment en tant que rappeur. Oui, voilà, c'est sur celui-là, c'est sur This Is an E.P. Release.
Olivier Cachin.
Donc, voilà, Tupac Shakur sur Samsung et sur deux morceaux de celui-là, je crois. Je l'ai. Et voilà, en photo, en studio, avec ses belles chaînes en or et son grand sourire. Alors, donc Samsung est celui qui l'a coécrit. Donc on va écouter un petit extrait. Il faut trouver l'endroit où il rappe, hein, ça, on va le reconnaître, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. All around the world, same song. «
all around the world, same song.
For the party to get naughty, get my rocks on, eat popcorn, watch you move your body to the pop song that I'm singing, ding-a-linging, funky beats ringing, everybody swinging in the place as I kick the J-A-Z-Z-Y style, R&B mixing it with the hip-hop swing beat, champagne in my hand, it won't be long till I'm gone. It's just the same old song.
It's just the freestyle. Meanwhile, we keep the beat kicking. Sweat dripping. Girlies in the limo eating chicken. Oops, don't get the grease on your pantyhose. I love you, Robo. Move over. I gotta blow my nose. Sneezing, but still I'm pleasing all the slimmies. Pull out my Jimmy. Time to get busy with a Jenny. If it's good and plenty, don't you know? There I go, there I go, there I go. But I don't go nowhere without my gym hat. What I'm rapping is if she's clapping, then I'm strapping, cause I'm smarter than that. And then, girlie, maybe we can get along.
Il arrive un peu plus loin. Tu veux que je mette directement? Il arrive après, c'est le refrain d'après.
Tupac, go ahead and rock this. Now I clown around when I hang around with the underground. Girls used to frown, say I'm down when I come around. Gas me, and when they pass me, they used to diss me. Harass me, but now they ask me if they can kiss me. Get some fame, people change, wanna live their life high. Same song, can't go wrong if I play the nice guy.
Claiming fame must have changed now that we became strong.
I remain still the same, cause it's the same song.
Voilà, une des premières apparitions sur disque officielle de Tupac au sein de Digital Underground, quand il est encore un peu rigolo, hein, puisqu'il dit « je peux pas me tromper si je joue le mec sympa ». C'est quand même incroyable de d'entendre ça quand on sait ce qu'il est devenu par la suite, l'ange noir de la mort de la Californie.
C'est à partir de 95 officiellement qui va s'installer à Los Angeles et il va être recruté entre guillemets par le mania du gangsta rap de l'époque qui s'appelle Suge Knight et qui était le président, le fondateur d'un label de gangsta rap qui s'appelait Death Row Records, donc Death Row, le couloir de la mort, et qui est membre d'un gang de Compton, de la ville de Compton, qui s'appelle les Mob Pyros. Donc c'est un gang Blood, pour ceux qui connaissent un peu la distinction entre les Bloods et les Crips, qui sont les deux types de gangs afro-américains qu'on retrouve à Los Angeles. Et donc il arrive à Compton au milieu des années 90. Compton qui est considéré à l'époque comme la Mecque du gangster rap. C'est une ville qui, au début des années 90, était également considérée comme la capitale américaine du crime. Elle avait le taux de criminalité, le taux d'homicide le plus élevé du pays. Alors que c'est une petite ville d'à peine 90 000 habitants à l'époque, qui est située juste au sud de Watts. Donc juste au sud de l'ancien ghetto afro-américain de Los Angeles. Et donc dans ce contexte-là, Tupac a adopté ce mode de vie autant qu'il a été adopté par le gang en question, les Mob Pyros. C'était extrêmement intéressé à la fois de la part de Tupac parce que ça lui offrait une street credibility, et c'était à la fois quelque chose d'extrêmement gratifiant pour les membres du gang en question parce qu'ils pouvaient s'affilier, s'associer avec Tupac, et surtout parce que les ventes de disques de Tupac était ensuite réinjecté dans le circuit local, dans le circuit criminel local du gang. Même s'il n'a jamais été un membre actif du gang, ça a toujours été le frontman, c'est-à-dire la personne qu'on met devant, un peu l'homme de paille qu'on mettait devant pour représenter le quartier et le gang.
Je crois que ce qui est arrivé à Tupac, c'est que, en quelque sorte, je pense que ce qui a été son drame, c'est qu'il en a fini par croire au personnage qu'il a lui-même créé, qu'il est devenu cette espèce de caricature de monstre du gangster rap, de figure tutélaire d'un genre musical qu'il n'épousait pas au départ, mais dont il est devenu vraiment le symbole. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le moment où la vie de Tupac a basculé, enfin il y en avait plusieurs, mais c'est quand il a été en prison et que Suge Knight a signé donc sa libération en payant la caution d'un million de dollars, et qui en quelque sorte a acheté Tupac, puisque par la suite il est devenu inféodé au label Death Row sur lequel il a signé. C'est là où tout a basculé et où il est devenu en quelque sorte l'hypertrophie de tout ce que représentait le gangster rap, qui était une musique qui était en pleine ascension, hein. Elle est née à la fin des années 80, N.W.A. en 88 sur l'album Straight Outta Compton qui signe l'acte de naissance officiel du gangster rap et de son succès énorme malgré une absence de passage radio. Et là quand Tupac signe en 95 avec Death Row, c'est l'apogée du genre. Death trop ces labels qu'il y a Tupac Shakur, qu'il y a Snoop Dogg, qu'il y a Dr. Dre, qu'il y a Dog Pound. C'est vraiment l'endroit où il faut être, c'est là où ça se passe. Et Tupac va devenir la star de ce label et va s'y brûler les ailes, puisque ça va aller de plus en plus loin, de plus en plus haut, jusqu'à sa mort. My definition of a thug, nigga.
Tupac n'a pas inventé le gangsta rap.
Pierre et Ville.
Ceux qui viennent de cette tradition-là, c'est les vieux de la vieille, c'est Ice-T notamment. Ice-T qui avait une trentaine d'années dans les années 80, donc qui avait reçu en héritage ce qu'on appelait les gangsta rhymes, qui étaient des sortes de poèmes que dans la tradition orale de la culture noire américaine, les prisonniers se racontaient dans les cours des prisons et qui faisaient qu'ils reprenaient des récits traditionnels de la culture noire américaine, notamment la figure du lapin astucieux, Brer Rabbit, auquel il arrivait des tas d'aventures et en général dont il se sortait pour le mieux et notamment grâce à sa grande langue et à son éloquence. Donc les fondateurs, les pères du gangsta rap viennent de ces traditions-là. Tupac arrive après. Et il s'inscrit en fait dans les pas de ses prédécesseurs. C'est plus un rappeur qu'un poète. Il est un héritier indirect de cette tradition.
Pour moi, il est dans une suite culturelle au sens où vous avez toujours ces images, vous avez toujours dans la culture afro-américaine cette image
Valérie Bonnet.
Du bad nigga. Le bad nigger, c'est celui qui vide rapine, c'est celui qui fait des mauvais coups. C'est le renard des romans de renard, si vous voulez. Il est sympathique. Il est sympathique, renard, c'est celui qui fait des mauvais coups. Mais quand même, il est plus sympathique qu'Isengrin. On a plus d'attachement pour lui. Même quand renard fait des choses vraiment, vraiment détestables. Et le bad nigger, c'est ça. C'est le singe. C'est le singe vanneur dans la tradition culturelle afro-américaine qui remonte aux traditions africaines. Ce singe vanneur, celui qui fait des mauvais coups, mais celui qui est quand même sympathique. Et pour moi, Tupac, c'est quelqu'un qui demeure dans cette tradition culturelle, si vous voulez. Alors évidemment, poussé extrêmement loin, hein, port d'armes, actes de violence, etc. Mais parce qu'il y a aussi une évolution de Tupac hein, en tant qu'individu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie de voyou ? C'est justement la vie qui n'accepte pas l'oppression. C'est justement cette libre entreprise. C'est la vie de celui qui n'est pas sous la domination blanche, qui réinvente les codes sociaux, qui réinvente les codes économiques. C'est la vie de liberté, si vous voulez. Le thug, c'est ça, la violence en plus, hein, en termes d'affirmation. Et c'est vrai que toute cette traduction de tatouage, qui est, bon, le signe des gangs, mais aussi qui est le signe de l'OG, hein, c'est-à-dire l'original gangster, celui qui est aussi passé par la prison, où on lui a tatoué, hein, vous avez tout un code du tatouage, c'est celui-là. Hein, c'est effectivement le mauvais garçon avec cette affirmation, on va dire, sur viril en plus.
Lui, son fantasme, c'est le lumpen. Le street nigga, c'est le thug, c'est-à-dire le voyou de base dont il admire et dont il célèbre la virilité arrogante, la liberté, la violence, mais il est moins esthète que peut l'être un Snoop Dogg ou que le sont les rappeurs, disons, du gangsta rap d'après, qui vont effectivement se couler dans ce mythe qui est très drôle en plus parce que c'est les manteaux de fourrure, parce que c'est les voitures plaquées or, parce qu'il y a tout un folklore qui fait que pour les amuseurs du rap, quand ils veulent faire un rap criminel, ils vont aller spontanément vers cette image-là qui est une image folklorique en réalité. Tupac, et c'est ça qui rend sa figure plus tragique, il est davantage dans la violence, dans la réalité de la rue, qu'il fantasme, mais qu'il va essayer d'exprimer avec brutalité précisément, et sans chercher à l'esthétiser au-delà de la virilité.
Le renouveau gangsta, si on peut dire, de Tupac, on pourrait le résumer, même si on a beaucoup d'autres, à deux morceaux. L'un qui est son ultime tube, California Love, qui est un morceau splendide, produit par Dr. Dre, avec Roger Troutman de Zap, un de ses idoles qui fait la talkbox, et cette voix un petit peu comme l'autotune, avec une espèce de voix métallique, un refrain imparable emprunté à Joe Cocker, un rap de Dr. Dre au début qu'il n'a pas écrit, enfin une grosse cuisine orchestrée par Suge Knight, qui est le mastermind du label. Ce morceau est sensationnel, il y a deux clips, dont un, une version Mad Max, comme on l'appelle, où ils sont dans le désert, dans des véhicules customisés façon Mad Max justement. Et puis l'autre, qui serait là pour le coup le côté très très obscur, c'est Hit 'Em Up, qui est l'ultime 10 song, ce qu'on appelle un 10 song, c'est un morceau de, donc 10 pour Disrespect, où on tue l'ennemi à coups de lyrics. Et là, c'est un morceau fascinant à plus d'un titre. D'abord parce que c'est le moment où il est accusé de beaucoup de choses, notamment d'avoir couché avec la femme de son ennemi Notorious B.I.G., Faith Evans, qui est elle-même chanteuse. Et le morceau commence par you claim you're a player but I fucked your wife. Tu dis que t'es un player, mais moi j'ai baisé ta femme. C'est-à-dire, c'est ça. Tout de suite, ça commence déjà très très violent. Il insulte tout le monde. Chino XL, Notorious B.I.G. bien sûr, Puff Daddy, le label Bad Boy, le groupe Mobb Deep, à qui il s'attaque de façon très vicieuse en évoquant la drépanocytose, qui est la maladie de Prodigy, de Mobb Deep. Et toi, le négro, t'as pas la sickle cell anemia ou quelque chose là? Ce qui est quand même assez, assez bas. Et un moment dans le morceau, qui dure assez longtemps, qui dure 5 minutes et quelques, qu'il rappe avec ses gars, sa troupe des Outlaws, il y a un moment où on a vraiment l'impression, moi, à chaque fois que je le réécoute, ça me fait des frissons. Il est plus un rappeur devant un micro qui fait des rimes avec du flow. C'est une espèce de coulée de haine, c'est-à-dire qu'il est comme s'il était littéralement possédé. Il insulte, fuck you, fuck everybody, tous ceux, et il dit mon 44 va s'assurer que tes gamins ne grandiront jamais. C'est-à-dire, c'est quand même c'est la formule. Bon, alors, ok, on est dans le rap, derrière ça, il y a pas de fait. Je veux dire, il a jamais sorti un flingue pour tuer les enfants de ses ennemis. Mais imaginez quelqu'un qui dit mon 44 va s'assurer que tes enfants ne grandiront jamais, ça fait froid dans le dos. Et on a vraiment l'impression que là, c'est plus un rappeur, c'est le moment. Pour moi, symboliquement, il bascule dans vraiment autre chose et où la haine prend le dessus, et c'est un morceau fascinant. Prends ton flingue quand tu vois Tupac, appelle les flics quand tu vois Tupac, tu m'as flingué mais tu m'as pas fini, et maintenant tu vas sentir la colère de la menace, négro, je vais te flinguer.
Non, la tradition de la battle, de la joute verbale, qui a été très bien décrite par les bofs, c'est clairement une tradition du ghetto noir. Ce qui est important, hein, c'est que la culture afro-américaine, c'est une culture de la parole, c'est une culture du discours, c'est une culture de l'oralité, c'est une culture du jeu de mots, c'est une culture du cryptisme, hein, ce qu'on appelle le double entendre en bon anglais dans le texte, c'est-à-dire on joue sur les sens cachés et vous avez ces jeux d'insultes rituelles qui sont également extrêmement circonscrits, si vous voulez, aux conditions d'énonciation. Ce qui est important dans la culture noire, c'est que le sens de vos propos est soumis aux conditions d'énonciation. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on ne peut pas dire « nigga » dans n'importe quelle circonstance, parce que ça n'aura absolument pas le même sens. Et dans la battle, c'est on s'insulte en direct, hein, c'est un jeu, alors les fameux « your mother », hein, ta mère, qu'on voit par exemple au début d'un film comme « La haine » de Mathieu Kassovitz, hein, ta mère suce des schtroumpfs. Et donc ces jeux verbaux, ces joutes verbales qui sont très très anciennes, sont circonscrites à ces face-à-face. Une fois que l'on a fini cette battle, évidemment, on n'a plus le droit d'insulter, bien entendu, hein, la mère de l'autre, parce que là, ça deviendra une réelle insulte et non plus une insulte rituelle. Donc le clash, etc., c'est aussi un jeu, c'est aussi une joute verbale, c'est-à-dire que la domination que l'on peut avoir sur l'autre, parce que on est dans une culture hyper virile, hein, on est dans une culture de l'affirmation, on est dans une culture aussi de la domination, on est dans une culture violente, parce que des gens qui ont grandi dans un environnement extrêmement violent, les violences policières,
policière, bien entendu, mais les violences entre les gangs, les violences quotidiennes, les violences conjugales, et puis n'oublions pas la violence économique, la violence de la drogue, hein, toute cette culture, cette génération des années 90, c'est au moment de l'épidémie du crack, hein, donc, où New York était décimée par la consommation de crack. Donc le clash, c'est aussi un moyen de dominer l'autre par la parole, hein. C'est des jeux de questions-réponses.
Hi Tupac, how you doing? Can you tell me how you doing today?
Well, I just had to listen to the.
Je viens d'écouter le réquisitoire du procureur et ses conclusions. Et c'est tellement loin de la réalité. Ce soir, je suis vraiment dégoûté. C'est plus de mon procès qu'il s'agit. C'est celui de la musique brutale des voyous tatoués. Il ne s'agit plus de moi, mais du cauchemar que certains font quand ils pensent à moi. Et le fait que j'ai l'air différent d'eux ne signifie pas que je suis un rappeur sadomaso.
L'histoire judiciaire de Tupac, il y a deux parties. Il y a la partie où il a gagné. Il est l'un des rares rappeurs et probablement l'un des rares noirs américains à avoir tiré sur des policiers et à s'en être sorti. Dans une nuit, il s'est retrouvé face à des policiers en civil, donc il ne savait pas que c'était des policiers, qui l'ont menacé et en état de légitime défense, il a tiré sur eux. Ça lui a donné des galons de rappeur antisocial, même si l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Et puis, il y a les affaires où il a perdu. C'est une groupie qui l'a violée, c'est le tribunal qui l'a dit, dans un hôtel, une nuit. Et il a fait 8 mois de prison pour ça. Et probablement que dans l'état de surexcitation dans lequel il pouvait être à cette époque, où il était au début du moment où il est devenu une superstar, enfin, le moment où les barrières s'abaissent et où on a l'impression qu'on peut tout faire, de fait, probablement qu'il a fait un peu trop et qu'il a été rattrapé par la loi. Et après, il y a eu une fusillade dont il a été victime à la fin 1994 à New York, au sortir d'un studio, où là, il était la victime, fusillade dont on n'a jamais retrouvé les auteurs, et qui a largement contribué à la paranoïa qu'il a eue à l'égard de New York avant d'entrer en prison. Il était persuadé que c'était un contrat qu'on avait mis sur sa tête, que ce contrat avait été mis sur sa tête par Puff Daddy et Notorious Big, et que parce qu'ils avaient attenté à sa vie, il allait leur faire l'enfer, et ça a été de fait une source attisée par Suge Knight et tout le gang qu'il y avait à Death Row. Ça a attisé cette querelle côte est, côte ouest, dont il a été l'un des plus venimeux vecteurs.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une fusillade. Enfin, il s'est fait attaquer dans le hall du studio Quad Recording à New York, dans lequel il venait enregistrer, et où il y avait l'équipe de Bad Boy et de Puffy qui était à un autre étage en train d'enregistrer. On lui a tiré dessus, il a notamment une balle dans la testicule, et on lui a volé ses bijoux. Et alors qu'il était blessé et en sang, au lieu d'appeler les secours et d'aller en ambulance, il est monté dans le studio et il est rentré dans le studio en sang, en hurlant, en disant « Vous avez voulu me tuer, mais personne m'aura, maintenant viens, on va enregistrer. » Et là, c'était une scène, alors tous les gens qui étaient là, qui racontent la scène, disent, c'était une scène surréaliste. C'est-à-dire, le gars est en sang, il dit « Viens, on va enregistrer », alors que tout le monde est là, genre « Mais il va tomber, il va mourir, qu'est-ce qui se passe ?» Et lui est en furie, en quelque sorte, son adrénaline qui le tient debout, le pousse à insulter tout le monde. C'est-à-dire, là, vraiment, on rentre dans un personnage qui est un personnage de roman, parce que c'est complètement dingue. Alors après, il va effectivement finir par aller à l'hôpital, etc. Mais c'est cette anecdote qu'il évoque dans le morceau. Vous m'avez pas fini, c'est-à-dire vous même pas mort, quoi. En quelque sorte, c'est une façon de se moquer de la mort qui est absolument spectaculaire.
À quoi pensiez-vous quand vous étiez allongé sur ce lit d'hôpital? Ils m'ont tiré dessus, direct. Je me disais, merde, je pensais pas qu'ils oseraient. Je n'arrivais pas à le croire. Je me disais que jamais un noir me tirerait dessus. J'étais leur représentant. Je pensais que j'avais rien à craindre de ma propre communauté. J'étais leur ambassadeur. Ils n'allaient jamais me faire du mal, jamais me voler ou me causer du tort. Mais comme l'ont prouvé les fausses accusations portées contre moi, et puis cette fusillade et tous les commentaires que j'ai lus dans les journaux et les médias, ce n'était pas vrai. Alors j'ai juste pensé, comment changer tout ça? Comment leur faire regretter ce qu'ils m'avaient fait? Comment revenir 50 fois plus fort et meilleur?
Alors moi j'étais à New York à l'automne 94, Et il s'est passé là quelque chose qu'on ne verrait que dans un film et qui s'est passé dans la réalité. Il était en procès, donc pour l'histoire du viol de la groupie. Et l'un des soirs du procès, il a dû aller enregistrer un morceau dans un studio tout près de Times Square. Et il a pris 5 balles dans le corps. Donc premier gros titre de la presse le lendemain, Tupac Shakur abattu à la sortie d'un studio à Times Square. Donc à Midtown Manhattan, au cœur de l'Empire américain. Un homme noir se fait descendre alors qu'il est en procès. Il est hospitalisé. Le lendemain, il sort en fauteuil roulant et il se présente en fauteuil roulant, bardé de bandages, dans son procès. Et deuxième salve de gros titres des tabloïds de new-yorkais, Tupac est sorti de l'hôpital, il risque sa vie. Certains l'accusent de bluffer et d'essayer d'influencer la justice. D'autres construisent déjà sa légende. Et troisième jour, le verdict, il est condamné, il part en prison. Ces trois jours ou quatre jours fous sont résumés au début de son album Me Against the World, l'album du début 1995, le premier album numéro 1 du Billboard par un artiste emprisonné.
At 12:25 a.m. Wednesday, Tupac was on his way into a Times Square building to record at an 8th floor studio with another rapper. But in the lobby, Shakur was shot several times, including two graze wounds to the head. Tupac's lawyers said the attack appeared to be a setup.
Against doctor's orders, Tupac Shakur checked himself out of the hospital less than 24 hours after being shot 5 times on the way to a Manhattan recording studio.
Tupac Shakur secures one clean legal victory this year as he is dismissed of assault charges brought against
him. Does the prison experience provide a source of new?
Est-ce que l'expérience de la prison vous a apporté des éléments neufs, de l'inspiration pour votre nouvel album?
Everybody thought it would.
Tout le monde le pensait. Genre, oh mec, Tupac est tombé, il va revenir avec un putain d'album. Mais c'est tout le contraire. La prison tue ton esprit.
Il est en prison, il va d'ailleurs vivre très mal cette période en prison, et son album est numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et je crois que le mythe de Tupac Shakur est né dans ces mois-là. Avant, il était un rappeur dont on parlait. Il était un rappeur scandaleux. Dan Quayle, le vice-président des États-Unis, avait dit que Tupac Shakur n'avait pas sa place aux États-Unis. Et donc, il était un titre ou un sous-titre de l'actualité. Avec cette séquence absolument surréaliste, absolument intense et improbable de la fin de l'année 1994, il est devenu plus grand que lui-même. Il est devenu Tupac Shakur.
Big sight, new, hang, oh big turn. Y'all know how this shit go, you know.
All eyes on me.
Buffalo G.
Roll up in the club and shit.
All eyes on me.
De manière générale, je pense que tout le monde se souvient de All Eyes On Me. Nous, on était en cassette audio à cette époque, quoi. C'était les Walkman Sony. La cassette audio, on avait enregistré ça à la radio où quelqu'un avait le premier double album. La seule personne qui l'avait, il y avait 15 personnes qui lui avaient emprunté pour l'enregistrer. C'est ça. All Eyes On Me, on n'avait pas l'argent pour s'acheter cet album-là, mais il y avait une personne qui l'avait, c'est sûr, il y avait tellement de rayures sur la pochette, tout le monde l'avait pris pour le... Il n'y avait pas de graveur, on l'enregistrait sur nos cassettes audio. Et chacun le mettait à fond, All Eyes On Me, parce qu'il fallait que t'entendes ces basses de Linda Clifford à la base.
La première que j'ai vraiment découverte, c'était All Eyes On Me, donc de l'album du même nom.
Pareil.
Anta et Quincy Orti.
Parce que je la trouve tellement universelle, en fait, dès les premières notes, on est emporté par un truc où on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est super euphorisant. Que ce soit le flow ou l'instru, on est vraiment dans un espèce de paradis lointain où tout d'un coup tout devient super cool, mais on comprend qu'il y a une rage parce que au début, les premières fois où on écoute cette chanson, on comprend pas les paroles, on comprend pas l'anglais, donc on peut se laisser bercer, mais en fait on capte qu'il y a une rage derrière. Le mec tape sur l'instru, quand il rappe, on dirait qu'il écrase le beat, voilà, tout en étant ultra cool. Ce qui est assez puissant, c'est qu'on est vraiment dans un truc ultra cool et en même temps avec un coup de pression qui pourrait à la fois donner envie de se déhancher, de baiser. Enfin, il y a un truc à la fois sexuel et à la fois
criminel.
Comme s'il était déjà au-dessus sur les nuages, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Tupac, c'est qu'il est, on sent qu'il est toujours entre deux rives, en fait. Il était déjà entre la vie et la mort.
Ouais, voilà, je pense que c'est un être qui est mystique.
Et dans son flow, on dirait que en fait, ça pourrait ne jamais s'arrêter. C'est continu comme si, en fait, il pouvait rouler à vie, et pour toujours dans cette voiture, dans son clip.
All Eyes On Me, je l'ai saigné. C'est son, c'est prod.
Les enclumeurs.
Franchement, écoute, c'est en même temps sombre, en même temps éclairé. Je sais pas comment expliquer. Par exemple. Shorty wanna be a thug. Tu vois, toi le son. Shorty wanna be a thug. Wanna be. Shorty wanna be a thug. Il a une gimmick, voilà, toute bête, mais elle te reste dans la tête. Pourtant, et quand j'écoute ça, ça me rappelle là, les trucs que
ça
j'ai fait.
Ça provoque des sensations, instinctif.
Ça rappelle plein de
c'est
trucs.
Instinctif. C'est instinctif.
C'est-à-dire qu'il a des espèces de mélodies, c'est sombre. Mais en même temps, il y a une gimmick. Il trouve des gimmicks dans les instrus.
Si t'écoutes les trois quarts de ces morceaux, quand on disait All Eyes on Me, tu sens le côté prétentieux d'un côté où il envoie une pichenette à certains. Son texte est raccord avec l'instru où c'est un peu clinquant, mais avec un côté un peu sombre derrière où tu sens qu'il a envie de pilonner quelqu'un.
Non, mais les arrangements, parce que les chœurs et tout, qui les choisit ? C'est lui qui organise ça ? C'est lui qui gère ça ?
Chaud, hein.
Parce qu'on regarde sur Live and Die, elle est là. Mm-hmm. Tu vois les chœurs ?
Bon, j'ai sur Do For Love aussi.
Il y a des chœurs derrière là, tu vois. Et tout le temps, il trouve des espèces d'arrangements, franchement, qui te restent dans la tête. Ouais. Tu vois.
Mais...
Dans Keep Your Hands Up aussi.
Mais c'est la reprise, ça. Keep Your Head Up, ouais, si. Qui est dans un film de. C'est un film de Spike Lee.
Et même le gros classique Change, hein. Il y a toujours une nana au milieu qui crie.
Changes.
Ah oui.
T'avais les Juicy, lui, il avait ça.
Oh là, Juicy.
Mais t'avais quoi encore ?
Un classique.
Tupac, t'avais. Attends.
Bah, Do For Love déjà aussi. Dans la gestion des refrains.
Reprise pure.
Lourd.
Tout le monde se souvient de Do For Love. Donc là, on vient d'avoir notre permis. On l'a eu quelques temps. Do For Love. Et puis Shorty Wanna Be a Thug. Avec ce sample de trompette d'un jazzman. C'était des émotions. Et puis après, ça nous a connectés à d'autres musiques. Et puis bien après, moi j'écrivais au théâtre et j'écoutais Change.
Look at this. The brother finally decides to stand up like a man and throw down. Too bad Raheem had to die first, huh?
Ses origines lui ont donné, sinon une confiance en lui, du moins une certitude qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il aurait pu être tout autre chose, il aurait pu être un acteur comme Will Smith, il en avait absolument les capacités. Il a complètement foiré sa carrière d'acteur parce qu'il n'a pas su contrôler ses nerfs, il se battait avec les autres acteurs, il rossait les metteurs en scène, c'est pas comme ça qu'on fait une carrière à Hollywood, donc il a gâché son talent. Takes place uptown. I grew up on a sidewalk while on street talk and then talk to all New York. I go to Queens for Queens.
Son premier film Juice, il était inédit en France et on avait un seul ami qui était arrivé du Moyen-Orient. Il vivait là-bas au Moyen-Orient et parce que son père était expatrié, il est arrivé en France et au Moyen-Orient. Ils avaient tout Tupac et ils avaient Juice et il nous a ramené la VHS Juice. On connaissait pas. C'est lui qui nous a ramené ça du Moyen-Orient et on l'a regardé en arabe sous-titré anglais. Et on a regardé Juice comme ça et tout le monde connaissait Juice, les répliques.
It's over. Everything starts from now. We all go down unless we stay together. Ain't no one man above the crew, you know that shit. Crazy, man.
Le réalisateur de Juice s'appelle Ernest Dinkerson. C'est en fait le chef opérateur de Spike Lee. Et donc, il avait décidé de réaliser son premier film, Ernest Dinkerson. Et donc, il a lancé un appel à casting, tout ça. Et le meilleur ami de Tupac lui a dit, viens, je vais faire le casting, accompagne-moi. Et ils lui disent, vas-y, dis à ton ami aussi. Il fait un essai. Il ne voulait pas trop, ils l'ont poussé. Et puis, il a fait l'essai.
I don't give a fuck about Steel. And I don't give a fuck about Raheem either.
Ils ont tous pris peur, parce que dans Juice, il joue le rôle d'un gars un peu instable, quoi. Et ils ont eu un moment de peur, parce qu'il avait tellement incarné le personnage, il a eu le rôle principal, comme ça. Donc voilà, comme quoi le destin nous rattrape toujours, hein.
So be it. You remember that, motherfucker. Cause I'm the one y'all need to be worried about.
Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que Tupac était très beau. Il était très beau, il a construit cette apparence, il s'est musclé. Il a été l'un des premiers rappeurs à se faire tatouer et à le montrer, et à l'exhiber même. Il avait un physique, un visage notamment tout à fait atypique, qui fait qu'il était immédiatement reconnaissable. Et ça a énormément contribué à la fois à son narcissisme et à la construction de son image.
C'est une panthère.
C'est presque une espèce de dieu grec en fait, version californien. ouais. En fait, on dirait qu'il est en plastique. Et son corps, et je pense qu'il s'est mis dans son rôle, en fait. Au fur et à mesure des années, il s'est fabriqué lui-même sa légende avec les tatouages, les muscles, le bandana.
C'était pas juste superficiel, genre le tatouage, les muscles, quoi.
On voit dans les vidéos que le mec était vif, quoi. Il était. Mais après, oui, il a aussi sexualisé un peu, d'ailleurs, son personnage. Parce que quand il rappe, il mettait la main sur son caleçon, les attitudes ultra sexe.
Tupac avait cette particularité aussi physique où il n'était pas quelqu'un d'imposant physiquement. Quand il était jeune, on le surnommait pour se moquer de lui à l'école tuberculose. Comme il était très maigre, mais en même temps, il avait cette bogosité avec les traits fins. Et il a comme ça une aura très magnétique. C'est quelqu'un qui est très magnétique. C'est ce qui a aussi, c'est ce qui, je pense, l'a amené aussi à jouer au théâtre et faire du cinéma. Mais quand il était à l'école d'art de Baltimore, il a même fait du ballet. Quand il a découvert les différentes facettes artistiques possibles avec Jada Pinkett Smith, tout ça, quand il était jeune à Baltimore. Et c'est vrai qu'il avait cette façon de se mouvoir, etc., qu'on retrouve aujourd'hui dans toute la culture urbaine et le rap en particulier, que ce soit en France et aux États-Unis, cette façon d'être très fluide dans les mouvements, torse nu, et comme j'ai dit encore, cette bogosité, cette façon de s'habiller, d'être les Lil Wayneistes diraient swag, etc. Donc... Il était swag avant le swag, quoi, en gros.
À l'époque, il a été mannequin. Il a fait défiler pour Versace. Mmh. C'est pour ça que tu le vois avec ses chemises Versace. Et c'est pour ça qu'il balance une pichenette à Notorious dans Hit'em Up où il dit « I'm the first who wears some Versace shirt. Mmh. You copy my style. » Je suis le premier à porter les chemises de Versace. Toi, tu viens, tu me copies, bouffon. Ouais. Tu vois. Et il a eu ça. Et à l'époque, il était vachement pote avec Mickey Rourke. C'était son grand pote. Et ils avaient fait des actions justement pour aider les jeunes et tout. Mmh. Et à l'époque, ouais, il avait un peu les mains un peu partout. Enfin, un peu partout, toujours dans le domaine qui lui plaisait. Il avait des revendications. Bon, de l'autre côté, il aimait bien faire le beau gosse. Il savait qu'il plaisait aux filles. Il va pas faire non plus le mec qui fait le timide. Hein. Mmh. Donc, il allait direct au front. C'est un mec qui touchait à tout. Aussi bien musique, cinéma et...
4-4.
Voilà.
Une rumeur dit que quand Tupac est mort, vous, les Outlaws, avez fumé ses cendres, c'est vrai? Carrément. C'était une nuit, on est allé à la plage, pour faire tous les trucs que Tupac aimait faire au bord de l'océan. On lui a apporté de l'herbe, des chicken wings, du soda orange. Pac aimait toutes ces conneries. C'était notre façon de lui dire nos adieux. Et cette nuit-là, j'ai oublié lequel d'entre nous a eu l'idée. C'est Pac qui a eu l'idée. Si tu écoutes Black Jesus, il dit « Last wishes, smoke my ashes ». Ma dernière volonté, fumer mes cendres. C'était une requête de sa part. Il était sérieux avec ça. Alors on a pris la chose au sérieux.
Ce qu'on raconte, ils disent qu'ils l'ont incinéré et qu'ils ont donné ses cendres à ses potes pour que ses potes puissent fumer, puissent la mélanger à l'herbe. C'est ce qui se passe, non? C'est vrai. Ils l'ont incinéré et qu'ils ont partagé ses cendres afin que ses potes puissent fumer du Tupac plus tard.
C'est ça. Trop de fanatiques.
Moi, par contre, je les aurais sniffés. Je les aurais pas fumés, je les aurais sniffés. Avec un peu de coke. Un petit mélange. C'est trop cool.
Merci à Anta et Quincy du groupe Orti, à la lexicologue Valérie Bonnet, aux critiques Olivier Cachin et Pierre Eville, à Nadir Youlin, metteur en scène de Tupac Requiem, au géographe Johan Lemoigne et aux quatre fantastiques du Mike et l'Enclume sur Arte Radio, Mo de Diakité, Balta, Mike Pesetas et Labrax. Prise de son, François Rivalan et Georges Thau. Doublage, Antoine Beauchamp. Mixage, Martin Delafosse. Tupac Shakur, La Dernière Panthère, un documentaire réalisé par Doria Zénine et produit par Martin Kenéen.
C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui au rappeur Tupac Shakur. Podcast, réécoute, commentaires et bruit en complément sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, un témoin engagé des atrocités de la Grande Guerre et de la résistible ascension d'Adolf Hitler, le peintre et dessinateur allemand Georg Grosse. Et dans un instant, sur France Culture, c'est le temps des écrivains de Christophe Onodibio.